France Culture.
Françoise Le Floch et Laurence Malonda avec Grégory Wallon et Fabien Gosset à la technique.
Vous êtes bien sur France Culture.
La science, c'est QFD. C'est une heure quotidienne dédiée aux sciences, à toutes les sciences.
Natacha Triou.
Réchauffement climatique, pandémie, nouvelles technologies. Nous sommes face à des défis scientifiques immenses. Elles nous concernent d'une façon ou d'une autre. Les sciences sont l'affaire de toutes et tous. Alors on articule science et société pour se saisir des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et puis la culture scientifique, c'est de la culture générale.
La science, c'est QFD. Du lundi au jeudi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Question du soir, première partie, un débat, Madagascar, la génération Z a-t-elle eu gain de cause ?
Quentin l'a fait.
Et puis dans l'actualité, vue par les idées et la recherche, une histoire de la corruption, on en parlera avec l'historien Frédéric Monnier.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
On se retrouve demain à midi, je recevrai la metteuse en scène Carolina Bianchi. En attendant, il est bientôt 13h30 et il est temps pour vous de retrouver les pieds sur terre.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire avec trois personnages importants. Lucas, 18 ans, un lycéen qui veut reprendre la ferme familiale. Son grand-père, à qui elle appartient, mais qui est criblé de dettes. Et la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui va s'en mêler. La CR, comme on dit, c'est un gros syndicat agricole dont certaines figures s'affichent clairement à l'extrême droite et qui entend concurrencer la FNSEA. La CR est à la tête de 11 chambres d'agriculture en France. Le Lot-et-Garonne, où nous sommes, c'est justement son fief historique. Pour en savoir plus sur certaines de ces méthodes, on pourra par exemple écouter le reportage qui suit, mais aussi l'enquête impeccable de Julie Pietri de la cellule investigation de Radio France. Elle y dévoile que la CR n'hésite pas à mettre des coups de pression, à intimider, menacer, provoquer, toujours au nom de la défense des agriculteurs. On entendra aussi dans cette enquête, si on veut en savoir plus, que la branche Lot-et-Garonnaise se trouve dans le viseur de la Cour des comptes. Plusieurs de ses dirigeants sont accusés, entre autres, selon la procureure générale près la Cour, d'avoir mis en place, je cite, « une organisation clanique et familiale où le népotisme se conjugue, selon elle, avec des fautes graves de gestion, un refus d'appliquer la loi et des conflits d'intérêts ». Ceci étant posé pour des raisons de clarté et d'information, cela ne résume pas toute la CR, ça n'est pas notre sujet non plus et en même temps un petit peu. Tout de suite, on raconte les aventures à moitié feel good de Lucas qui veut reprendre la ferme par Anna Benjamin.
Je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans, j'habite à Mauvezin-sur-Guppy. À 1 heure de Agen et à 1h30 de Bordeaux, ça fait les arrière-grands-parents de mon grand-père. On habite là. Ça fait 100 ans qu'on habite ici, depuis 1915-1920 qu'on habite dans ce village. Je suis en classe de terminale de agro-équipement sur le matériel agricole et équipement. Les types de terre, tout ce qui est agronomie, les vers de terre, tout ça. Mon père, il est chauffeur routier. Et puis ma mère, elle travaille dans une usine à bois. Elle est ouvrière à 500 mètres de chez mes grands-parents. Elle fait des cagettes pour mettre des pommes, de la salade, tout ça. Là. Et j'ai passé mon enfance, 98% ici, sur l'exploitation de mes grands-parents, avec mes grands-parents. Mais c'est simple, quand ma mère elle a accouché de moi, un mois après, elle a repris le travail. Et puis c'était ma grand-mère qui me gardait. Et si c'était pas ma grand-mère, c'était mon grand-père. Je suis proche de mon grand-père et de ma grand-mère. Mon grand-père, je venais tout le temps avec lui dans les tracteurs, même dans la voiture pour aller à maman, j'y allais tout le temps avec lui. J'étais tout petit, je dormais dans le tracteur, j'avais un coussin et une couverture, je dormais. Et puis après, quand je me réveillais, je montais sur ses jambes et je conduisais le gros. Et on faisait des boîtes voilà, avec la presse. De 3 ou 4 ans, je commençais à monter sur les tracteurs et à 8 ans, j'ai conduit un tracteur tout seul. C'est un souvenir, chaque fois j'y pense, j'ai eu la meilleure enfance de toute ma vie. Hein. Sur l'exploitation, mes grands-parents ils sont installés en... Ça fait 45 ans qu'ils sont ici. On a 37 hectares de terre et de prés en tout. Et après, on a 6 hectares de bois. Après, sur l'exploitation, on a 3 bâtiments. Un qui nous sert à stocker le matériel. Après, on a la maison de mes grands-parents. Après, on a la grange qui nous sert à mettre les vaches et les veaux. Et après, dans la grange, on stocke le foin. Et après, il y a un ancien atelier. Et après, il y a un grenier aussi qu'on stocke des pièces pour le matériel. On avait des vaches à laitière. On en avait 66 vaches laitières à la traite. Et ici, il y avait des vaches à viande. Mais quand mon grand-père a fait l'AVC en 2021, et il a fait son AVC le 3 décembre 2021, et le 4, on a reçu les papiers qu'il était à la retraite. Et quand il est revenu de son AVC, allez, en avril, et on a tout vendu, toutes les vaches. Depuis que je suis tout petit, je voulais être agriculteur. Hein. J'aime tout, sauf nettoyer, j'aime pas. Faire les cachards, j'aime pas. Mais après, j'aime tout. J'aime bien faire la mécanique, j'aime bien être sur un tracteur. Mon grand-père le savait pas, personne ne le savait que je voulais être agriculteur. C'est à partir de 10 ans, mon grand-père, il avait dit, de toute façon, personne ne veut reprendre, mais du coup, je vais vendre. Du coup, moi, quand il m'a dit ça, quoi, je lui ai dit, papy, moi, je veux reprendre l'exploitation, je ne te l'ai pas dit, mais je veux la reprendre. Il me dit, eh bien, si tu veux la reprendre, tu veux la reprendre, si tu ne veux pas la reprendre, tu ne la reprends pas, je t'en voudrais pas. Oui, mais mes parents, ils ne voulaient pas que je fasse agriculteur. On voyait des trucs à la télé, là, c'était mécanicien agricole, mécanicien pelle, chauffeur routier, mais ça, j'aime pas. J'aime pas être tout le temps faire la même chose, quoi. J'ai besoin de changer. Je serai agriculteur, point, c'est tout. Mes parents, ils m'ont dit, oui, mais tu vas pas gagner ta vie. Et je dis, mais moi, je m'en fous de l'argent. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre ma passion. J'ai toujours pensé à reprendre l'exploitation de mes grands-parents. Depuis que je suis né jusqu'à maintenant, j'ai toujours envie de la reprendre. Hein. Parce que j'ai grandi ici, j'ai fait mon enfance ici, je suis bien là, ici, moi. Juin 2025, mon cousin il m'a envoyé un message sur Snap, là, les réseaux sociaux, là. Il m'a dit pourquoi la ferme de tes grands-parents elle est en vente. Mais je lui ai dit pourquoi elle serait en vente alors que j'ai envie de la reprendre, tout ça. Et puis il m'avait envoyé l'article du journal. Le Républicain, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien, il y avait juste un article qui avait écrit vente aux enchères. Il y avait la maison, les terres, les adresses des terres, il y avait tout. Et au début, je pensais que c'était une arnaque. Puis après, quand on était sur la route, du coup, ma mère a conduisé. Du coup, je lui ai dit, maman, la ferme de chez papy, elle est en vente. Elle me dit, mais non, elle n'est pas en vente. Et j'ai dit, ben si, il y a un truc vente aux enchères. Et puis après, on s'arrête au feu rouge, et après, elle prend mon téléphone. Elle me dit, oui, Gachon, c'est bien à vendre. J'ai dit, ben oui, voilà, je te montre la preuve. Elle était en colère, et puis en même temps, elle était triste. Mais moi, je n'étais pas en colère, j'étais triste, quoi. Je me suis dit, on va la perdre, tout ça. Je vais perdre un truc que j'avais toujours envie de la reprendre. Mon grand-père, au téléphone, quoi, il s'en voulait, quoi. Je lui dis, bon, papy, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bon, mais c'est à cause de mes dettes. Et je lui dis, bon, ok, d'accord, il y a combien de dettes? me dit qu'il y avait 30 000 euros. Et je dis, mais pourquoi tu ne l'avais pas dit avant qu'il y avait 30 000 euros? Pourquoi tu ne nous avais pas en parlé avant? On t'aurait aidé, quoi. Et puis quand je lui dis ça, il était triste. On le sentait qu'il commençait à pleurer. Bon, alors du coup, il a dit, oui, mais bon, mais maintenant c'est fait, on ne peut plus retourner en arrière. Et je dis, oui. Il devait cet argent à la banque. Au début, il y avait 30 000, mais vu comme mon grand-père, il ne pouvait plus payer parce que quand tu tombes malade, quand il t'arrive des problèmes de santé et que quand on a arrêté le lait, ben, nos comptes en banque, avant, ils étaient au vert. Et puis quand on a arrêté le lait, ben, ils étaient au rouge, quoi, même c'était au noir. Les dettes, tu ne pouvais plus les payer. Et puis, à force d'accumuler, on était passé en liquidation judiciaire en 2016. L'avocat de mon grand-père, il a réussi à nous sauver. Et en tout, de dette, avant 2016, il y avait 30 000. Mais vu comme il ne pouvait plus payer, quoi, ben on est arrivé à 100 000 euros de dette. Hein. Parce que des intérêts de 13 %, c'est énorme. C'est des voleurs. Les trucs des dettes, la liquidation judiciaire, je ne savais rien du tout. Je ne le savais pas. Mon grand-père, il gardait tout. On ne le savait pas. Hein. Il cachait tout, il nous cachait tout. Même au repas de famille, avec les copains, il disait rien. Parce que c'est une honte. Hein. Il avait honte de créer des problèmes.
Je m'appelle Bernard et je suis le grand-père de Lucas. Au mois de janvier, j'aurai 70 ans, le 9e jour de l'année. Mes parents, ils ont toujours été agriculteurs, depuis le commencement jusqu'à la fin, quoi. Enfin, ils ne sont pas morts encore. Hein. J'étais employé sur une moissonneuse de batteuse pendant 30 ans, et après, j'allais tailler la vigne, quoi, l'hiver. J'ai acheté cette ferme-là pour y habiter, quoi. Mais j'ai acheté en 1980. On travaillait à deux avec mon frère, quoi. On était deux producteurs. Principalement, c'était l'élevage laitier. On avait à peu près 400 000 litres de lait. Et après, on faisait de l'ensilage de maïs, foin, orge pour les bêtes, quoi. Voilà. Et puis, avec mon frère, on a travaillé ensemble, quoi. On a refait la maison ensemble, petit à petit, parce que les moyens financiers n'étaient pas là. Parce que tout y est passé. Hein. Toi, maison, mur, tout. Hein. Puis après, en 95, j'ai eu un accident de dos. Le rhume à l'air, ce que vous avez vu dehors, là-bas. Mais c'est ça qui m'est tombé dessus. 500 kilos m'est tombé dessus, quoi. Bon, j'étais écrasé comme une crêpe. Après, il y a eu les tempêtes. Après, on a eu des mauvaises récoltes. La grange qui s'est effondrée en 2000 pour la tempête, elle a été emportée. Donc on a été réduit à zéro, et puis on n'était pas assuré pour ça. Vu que l'assurance était chère, on a dit c'est pas la peine. Les problèmes financiers, ils ont commencé quand la banque n'a pas voulu suivre. Elle n'a pas voulu m'aider, j'ai pas eu d'aide. J'avais donné 30 000 euros en 2018-19, mais bon, c'était pas assez, quoi. Et les dettes ont augmenté au fur et à mesure, quoi. Tout a augmenté, quoi. Et avec mon AVC, j'ai plus rien fait, quoi. Je pouvais plus rien faire. Paralysé, tout le moitié du corps. On sent plus rien. Le bras, il est mort, si on peut dire. La jambe aussi. Et on peut pas s'habiller, on peut rien faire. Pour manger, c'était très difficile. Je devais pencher la tête et sur un côté pour pouvoir avaler les aliments au fur et à mesure. Et pas beaucoup, juste un petit peu. Et c'était des aliments moulus. C'est tout moulu, quoi. Et ils m'ont mis d'office à la retraite. En 65 ans, j'étais à la retraite. Autrement, si j'étais pas malade, j'aurais pu continuer. Mais vu que je pouvais pas écrire dans la main droite, alors j'ai plus rien fait, quoi. L'emprunt que j'avais était à 12%. Vous vous rendez compte que ça fait beaucoup. Mais j'en ai parlé à personne. Personne ne savait. Il n'y a que moi qui étais au courant, moi et ma femme. C'est tout. On se le garde pour soi-même. On se dit, eh bien, t'as pas réussi, puis c'est tout. Non, mais c'est une mentalité qu'on a de ne pas dire ce qu'il faut. Donc on se le garde pour soi-même. C'est bizarre, hein. Mais c'est comme ça. Je préférais fermer les yeux, voilà. Pour continuer à faire vivre la ferme. Le problème, si on n'en parle pas, mais on laisse traîner. On dira, on verra l'année prochaine. Et puis ainsi de suite, les années passent. Que si on avait résolu ce problème dès le départ, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mon fils était en colère, ma fille aussi, mais mon petit-fils, pas trop. Non, ça allait avec lui, ça allait. On pouvait discuter. Mais avec les enfants, les vrais enfants, nos enfants, là, ils étaient un peu durs. Ça aussi, si je leur avais dit avant, peut-être on aurait pu faire quelque chose aussi. Mais bon. C'est pas évident de parler à d'autres personnes, hein. Il y a eu un moment donné, j'ai pris peur des fois, hein. Mais bon. Je pensais pas au suicide, hein. J'avais une solution, c'est mettre à feu tout et puis polluer les terres, et puis c'était tout, hein. Le repreneur, il a eu du mal. C'était mon but, hein, à un moment donné. C'est tout détruire. Me retrouver dans un HLM, ça ne me va pas, moi. Voilà. Si c'était à refaire, je ferais différemment. J'avais retiré la coordination rurale. Maintenant, ils sont peut-être à l'écoute. Ils voient qu'il y a pas mal de personnes qui se suicident. Peut-être maintenant, ils sont à l'écoute. Puis il faut que les gens, comme moi, leur en parle aussi. Si on ne parle pas, personne ne sait, quoi.
C'est vrai que Coucou, il me laisse les terres ?
Il a dit. Maintenant, tu sais, mon frère...
Oui, il est comme toi, il est têtu.
Et toi, tu t'es tu aussi.
Voilà. J'ai la même mentalité que toi.
Voilà, justement. Et ta mère aussi.
Non, c'est mamie.
Oui.
Elle gueule pour rien.
Voilà.
Bon, tu vas lui dire, c'est comme toutes les femmes. Hein.
J'ai contacté la coordination rurale, quoi, parce qu'en fait, c'est pour défendre les agriculteurs. J'en parle avec ma mère, elle me dit, qu'est-ce qu'on t'en penserait d'envoyer un message à la CR s'ils peuvent ou rien nous aider. Elle me dit, ben, tente, et puis on verra ce qui se passera. Et puis, le samedi, quand je me réveille, il était 8h30, je me prépare, j'étais en train de déjeuner, bon, j'étais fatigué, je vois quelqu'un qui m'appelle, bon... J'ai dit « Allô ?» Il me dit « Oui, bonjour Lucas, c'est José Pérez, le président de la CR, de la coordination rurale. » « Waouh, attends, tu te réveilles, tu vois ça ?»« Oui, bonjour. » Et du coup, on commence à parler, et puis après, il me dit qu'en fait, que la propriété devait revenir à moi et que devait revenir à personne d'autre, quoi. Et ils avaient dit à tous les agriculteurs du département de ne pas se renchérir, même, il n'y a pas que les agriculteurs qu'on a dit ça, même à tout le monde, et, on parlait à tout le monde, là. Hein. La ferme, le prix, quoi, était de 140 000. J'avais pas l'argent, et puis ma mère, mes parents, ils avaient pas l'argent. Et le jeudi d'après, c'était la vente. Mon père, il m'envoie un message, il me dit coucou, Lulu. Il m'avait demandé, mon père, de m'envoyer une photo du gros tracteur qu'il a, mon grand-père. Et je lui dis oui, mais pourquoi ? Il me répond pas. Bon, alors, du coup, eh ben, moi, je lui envoie la plus belle, quoi, que j'ai. C'était, on était en train de labourer, et puis il y avait un coucher de soleil, je l'avais prise, quoi. Je lui dis, t'es sûr que tu vas pas me le foutre avant, ton tracteur? Il me dit, mais non, tu vas voir. On en parle après quand tu rentres. Bon, d'accord. Il rentre et puis il me dit, oui, j'ai fait une cagnotte, quoi. Une cagnotte pour acheter la ferme. C'est une cagnotte en ligne, Linchi. Le titre, c'est Sauver la propriété de mes grands-parents. Ou Sauver la ferme de mes grands-parents. Au début, moi, j'y croyais pas. Je pensais, quoi, qu'il allait voir 5 ou 600 euros. On va trouver une solution. Et c'est après, quoi, quand j'étais au tribunal, 11 000. Je me suis dit, waouh, 11 000. Putain, je me suis dit, putain, waouh, je suis riche, quoi. La première vente, elle était le 19 juin, un jeudi 2025. Je suis jamais allé au tribunal, c'était la première fois de ma vie. On est arrivé là-bas. T'es un peu timide, quoi. Tu connais personne à part les présidents de la CA que tu connais à peine. Alors, du coup, je savais pas où me mettre. J'étais mal à l'aise. J'étais stressé. J'avais mal au ventre. J'étais pas bien. Je croisais les doigts. J'espère que je vais la sauver. La salle était pleine. Quand je vous dis qu'elle était pleine, elle était pleine. J'avais peur qu'il y avait des gens qui seraient chéris. Et puis, je vois un papy, quoi. J'espère que t'es pas là pour me la racheter, l'exploitation, quoi. Il me dit, mais non, j'étais un ancien agriculteur, je suis venu pour te soutenir. Il y avait 3 ventes. Un, c'était des terres. L'autre, c'était une maison. Et après, c'était l'exploitation. Et nous, on était un dernier. Alors, du coup, on devait attendre. C'était long. Il me tardait qu'on sortait parce que j'en avais marre. En fait, le prix était à 140 000 et en fait, toutes les minutes 30, il baisse de 10%. 26 fois, il a baissé et puis j'ai dit, putain, mais c'est quand c'est fini, je commence à stresser, je commençais à avoir les mêmes moites, tout ça, la boule au ventre. Et puis après, ça allait. Le dernier prix qu'ils annoncent, 10 045,50 €, l'avocat, il lève la main. Et puis après, ben, ça a été sauvé. Tout le monde, il dit, c'est bien, gamin, t'étais battu tout le long, tu dois être fier de toi. Quand on est sorti, le premier truc que j'ai fait, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère. C'était la première fois qu'elle me répondait au téléphone au travail. Quand je lui ai dit le prix, et tout le monde me disait, mais arrête, t'as oublié un zéro. Tout le monde me disait ça, je disais non, non. 10 045,55 €. Mon père, il était fou, il était en train de rigoler. Et puis je dis, mais on s'en fout maintenant, on a réussi à la sauver, c'est le principal. J'étais heureux, je sautais comme un kangourou, là. Après, on était parti au bar pour fêter ça, hein. Et après, je suis rentré chez moi, je suis allé chez mon grand-père pour lui dire, parce qu'il me répondait pas au téléphone. Et puis quand je lui ai dit, il était soulagé, là. Hein. Il fallait attendre 10 jours. C'était pendant les jours de moisson. Moi, j'étais en train de conduire la batteuse. Mon patron qui m'avait fait conduire la troisième fois la batteuse. Mon téléphone, il était à côté et je le voyais pas. Je regardais la barre de coupe. Puis, il me dit, réponds, il y a quelqu'un qui t'harcèle. Et j'ai dit, ah merde, c'est mon grand-père. Et du coup, eh bien, je descends de la batteuse. Comme ça, en même temps, je pissais un coup, comme si j'avais envie de pisser. Et puis, je le rappelle. Il me dit, oui, Lucas, ça va? J'ai dit, ben oui, et toi? Il me dit, non. Il me dit, il y a quelqu'un qui a surenchéri. J'ai dit, allez, arrête tes conneries. Du coup, j'appelle mon père, je lui dis. Il me dit, mais t'es sûr qu'il se trompe pas? C'est ton grand-père, il s'est trompé, il a mal lu. Et puis après, je dis à ma mère, mais maman, va voir quand même, parce que faudrait pas qu'après on a des mauvaises surprises. Puis elle m'appelle, elle me dit, oui, t'avais raison, il y a quelqu'un sur un chéri. C'était un retraité, il avait 79 ans. Eh bien, il a surenchéré de 11 050 €. Et puis après, un ami, qui est devenu un ami maintenant, il fait partie de la CR, je l'ai appelé le soir, je lui ai envoyé les papiers. Et puis lui, il allait le voir, parce qu'il savait où il habitait. Il allait le voir, il lui a parlé. Et puis, il y a quelqu'un qui a mis son numéro de téléphone sur tous les réseaux. Et il s'est fait harceler, insulter parce qu'il avait surenchéri. C'est pas moi qui l'ai fait. Il a pris des menaces et des pressions. Hein. T'es en train de niquer un rêve d'un gamin et puis t'es en train de foutre des grands-parents de 69 et 68 ans qui sont un qui est handicapé et une qui est ma grand-mère qui perd un peu la tête, quoi. Foutre dehors. Et puis il a dit, bon, je regrette d'avoir fait ça. Je me fais harceler et même insulter par tout le monde. Hein. Quand il s'est retiré, c'est après que... Allez, un jour, le lendemain, quoi. C'est Karine Duc, ben, la présidente de la Chambre d'agriculture, qui m'avait appelé, qui m'a dit qu'il fallait repasser au tribunal, quoi. J'étais fatigué, j'étais au plus bas, le mental était plus là, j'avais plus envie de rien faire, hein. Et puis, la cagnotte, elle a explosé. On est passé de 80 000 à 140. Hein. Je suis monté haut, quoi. C'est qu'en fait, il y a des gens qui te soutiennent, qui te remotivent, quoi. Parce que, je vous le dis, j'étais au plus bas. Hein. Après, tout l'été, ça s'est calmé. Personne ne savait plus qui j'étais, quoi. Et puis, la deuxième vente a été programmée le jeudi 16 octobre 2025. J'étais angoissé, mais comme la première, hein, j'étais complètement pareil. Je suis arrivé à 13h30, quoi. Je voyais une dame, avocate. Qu'est-ce que foulait, elle? Et le prix était de 11 000 quand le monsieur l'avait surenchéri, le retraité. Mon avocat, il dit 12 000. Et après, l'avocate, là, la dame, elle dit 13 000. Ça commence à monter. Ma mère avait mis, elle commence à pleurer, elle était stressée, elle était comme moi. Moi, je commence à stresser à partir de 50 000. J'avais envie de... Comme un chien qui n'avait pas mangé depuis 8 jours, là, j'avais envie de l'avoir, de la gnaquer. Ça durait 20 minutes, un truc comme ça, quoi. Et puis après, quand elle a dit son dernier prix de 110 000 euros... Mon avocat, il a dit 115, elle a fermé tous les cahiers, elle a attendu les 1 minute 30 quand ça avait fini. Après, elle a pris tous ses cahiers et elle est partie. Elle nous a même pas dit au revoir, j'avais envie de la stopper et de lui dire c'est qui ton client, qu'on l'appelle, tout ça. Mais on n'a pas eu le temps parce qu'elle est partie. Elle est partie comme une voleuse. Je sais pas qui c'est, je sais même pas son comment s'appelle, je sais rien de elle, je sais même pas qui c'est son client, mais je pense que c'était les banques, quoi, juste pour rembourser les dettes, quoi, qu'il avait mon grand-père. Je l'ai gagné, quoi, mais à 115 000 euros, quoi. Ça fait mal. Mais bon, quand tu fais tout pour une exploitation, tu sors le billet. J'étais heureux, mais d'un côté, j'étais en colère, quoi. Parce que 115 000 euros, c'est énorme. Hein. La cagnotte, en fait, me servira, quoi, à payer l'exploitation, le notaire et tout ce qu'il faut, quoi, pour la reprendre. Moi, au début, je pensais qu'il allait avoir personne. Et je me suis dit, je vais avoir l'exploitation pour 12 000. Et puis après, le reste de la cagnotte, ben, ça va me servir pour acheter l'exploitation, payer le notaire, tout ça. Et puis acheter un peu de matériel, quoi, parce qu'il y a, un peu de matos à changer, quoi. Et puis, ben, en fait, non, je peux pas. Parce que la propriété, elle vaut 115, là, maintenant. Je la paye 115. Après, ben, il faut que je paye tout ce que je dois payer. J'aurai à 130, quoi. Et je vais avoir que 10 000 euros. Mais avec 10 000 euros... Je m'en servirai pour améliorer la ferme, quoi, améliorer, faire des rénovations, tout ça, quoi. Hein. Mes grands-parents, ils vont continuer à vivre sur l'exploitation jusqu'à leur fin de vie. Et j'ai un projet, quoi, ben, déjà remettre l'élevage et puis faire un autre bâtiment, mais un bâtiment solaire, un panneau solaire, et puis ça, je voulais que le garder à moi, mais bon, il faut que je me le dise, mais c'est qu'en fait... Je vais faire des vaches à viande, quoi, et puis vendre la viande sur l'exploitation, qu'il y a des gens qui viennent m'acheter la viande, quoi. Je suis en train d'œuvrer pour le faire. Quand j'étais petit, quoi, j'étais vraiment en retard que plus que les autres. Je savais pas lire, je savais pas écrire. En CP, je savais pas lire ni écrire. Hein. Et puis tout le monde, tous les profs, ils disaient il va jamais réussir dans la vie. En fait, maintenant, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je me suis battu tout le long pour montrer de quoi j'étais capable aux jaloux, quoi. Hein. Parce que personne croyait en moi. Hein. Et puis maintenant, les jaloux, je les entends plus.
Mercredi, il ne devait pas pleuvoir. Il pleut, jeudi, il fait beau. Mercredi, vendredi, il fait beau. Ça fait que changer, ça m'énerve. Tiens, il n'y a que le sable que pour labourer. Le tracteur, il va forcer pour rien. On va l'user pour rien. Il y a un mètre d'air. On peut faire du fouet. Et si on peut pas, eh bien on revient ici et on range l'atelier. Voilà. Voilà le programme. Et tu m'embêtes pas.
Lucas, je vais être fier de lui, hein, parce que il a un peu mon caractère. Hein. Si ça va pas, il le dit. Et quand ça va, il le dit. Il le dit, mais doucement. Voilà, c'est ça. Maintenant, reste à savoir les embûches qu'il va avoir dans quelques années. Ou ça va bien, ou ça va mal. C'est tout.
Yes, I wanna live.
cet été, Lucas veut reprendre la ferme. Un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Eric Lancien. Merci à Lucas, à Bernard, à Marie-Nadine, à Christelle et à José Pérez. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel.
Le constat est unanime. La santé mentale des jeunes se dégrade dans notre pays et les moyens pour répondre à ce mal-être n'ont jamais été aussi réduits.
Marina Carrère d'Ancos.
Alors de quoi souffrent les jeunes et pourquoi ? Quel est le rôle des écrans et des réseaux dans leur mal-être ? Que peut-on proposer à ces jeunes en difficulté et peut-on prévenir ces troubles ? Réponse dans mon carnet de santé mentale, le podcast, en 6 épisodes.
Santé mentale des jeunes, une série de podcasts à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Du 18 novembre au 1er mars, le musée du Quai Branly Jacques Chirac vous invite à plonger dans 5000 ans d'histoire et de légendes des dragons d'Asie. Créature bienveillante et symbole d'énergie vitale, le dragon asiatique déploie ses formes à travers une sélection exceptionnelle d'œuvres et d'objets d'art, des jades antiques aux créations contemporaines. Dragon au musée du Quai Branly Jacques Chirac, du 18 novembre au 1er mars, une exposition France Culture.
Tout de suite, Sylvain Bourmeau.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Pomme C, pomme V, pomme P, ou traduit dans l'autre langue de la planète informatique, contrôle C, contrôle V, contrôle P. Voilà, résumé les missions à venir. Voilà le trajet que nous allons effectuer au long de cette suite dans les idées. Copier-coller donc pour commencer avec le chercheur Alain Deneville qui s'est intéressé à ce geste d'écriture devenu si mécanique. Qu'est-ce qui le rend possible? Quels effets produit-il? Que dire en somme de cette habitude largement inquestionnée de nos quotidiens? Et une fois cette première partie saisie, nous pourrons procéder à l'impression, pomme P donc, avec deux artistes, un atelier, plus précisément celui de Mathieu Raffard et Mathilde Roussel qui publient Bourrage papier ou les leçons politiques d'une imprimante. Et pour terminer l'émission, dans la rubrique actualité, il sera question d'écologie. L'écologie comme politique du care, c'est le titre d'un numéro de la revue Raison politique qu'ont dirigé ensemble Sandra Laugier et Fabienne Brugère. Cette dernière nous rejoindra pour cette rubrique actualité. Bonjour Alain Deneville.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne. Vous êtes l'auteur de deux livres qui paraissent coup sur coup. L'un consacré à l'OSINT, enquête et démocratie. C'est cette méthode d'enquête à distance dont vous aviez dit quelques mots ici à propos d'un numéro récent de la revue Multitude. Ce livre paraît aux éditions de l'INA, on aura l'occasion d'en dire aussi quelques mots. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre tiré de votre recherche doctorale qui paraît aux éditions de l'université de Grenoble, dans une collection importante dans laquelle on a vu des ouvrages comme celui de Catherine Hales notamment paraître, qui était venu en parler dans cette émission. Et ce livre